Radio Couleur Chartreuse a le plaisir de vous proposer une émission qui s'appelle le Prosélivre, en un seul mot bien sûr. Alors Prosélivre, c'est avant tout plein d'idées nouvelles pour lire un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout localement. L'idée est que chaque émission vous permettra de faire connaissance avec un créateur ou créatrice littéraire. Bienvenue dans Prosélivre pour plein de petites excursions littéraires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prosélivre. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Christian Crossman. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Il a une notion du temps, pas exactement comme nous, parce qu'il est un peu en partie dans le monde des vampires. On va en parler tout à l'heure. Mais déjà, alors Christian, en fait, l'écriture, c'est dans un choix de seconde partie de vie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Mais les mots, ils étaient en vous depuis longtemps. Est-ce que l'écriture, la littérature, c'est quelque chose qui vous a intéressé depuis petit?
Je crois que je dois écrire depuis que j'ai 14 ou 15 ans, peut-être même avant. Si je me souviens bien, je crois avoir essayé d'écrire une pièce de théâtre, je devais avoir une dizaine d'années. Bon, non abouti, bien sûr.
Ben là, il y a le temps de la reprendre maintenant.
je m'en souviens plus très bien, à vrai dire.
Ouais. Et c'était sous quelle forme, le soir, sur un cahier, c'était comment?
Oui, ouais. C'était la partie artistique qui m'intéressait essentiellement au départ, plutôt... les personnages, les costumes, la mise en scène, en quelque sorte.
Et toute la journée, les idées vous trottaient dans la tête, ouais. Les mots...
Oui, c'est ça, en fait. Quand vous avez un esprit qui est débordant d'imagination, il y a toujours des choses à dire et à écrire en permanence.
Oui, tout à fait. Et donc, cette envie d'écrire, elle a été canalisée, enfin contrôlée pendant très longtemps. Mais pourquoi? Parce que vous aviez un travail trop prenant, pas assez de temps?
Parce qu'en fait, un écrivain mange des cailloux à la sauce brique.
Ah.
Enfin, la majorité. Quelques-uns en tirent leur épingle du jeu. Mais la grande majorité des écrivains, comme je dis et j'aime dire, mangent des cailloux à la sauce brique. Ce qui fait qu'il faut quand même avoir un job. Et du coup, on se trouve dans l'obligation d'avoir un job alimentaire qui est plus ou moins fonction du hasard, des relations, des rencontres, de vos choix. Voilà. Donc j'ai fait tout autre chose.
Oui. En plus, je suis en train de me dire, ça dépend en fait sur quel thème on écrit. Parce que par exemple, quelqu'un qui raconterait, je sais pas, ses relations avec sa voiture, ce serait plus compatible avec un boulot. Alors que vous, c'est plus dans le domaine de l'imagination.
Ça dépend du thème qu'on écrit et le thème qu'on écrit dépend aussi de la période.
Ah oui.
Ouais.
Parce que par exemple, le thème du vampire, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis toujours ou ça a émergé?
Alors moi, j'adore le fantastique. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me fascine. Mais j'aime d'autres sujets que le fantastique. Et si vous voulez, on l'abordera après avoir parlé de l'ouvrage pour lequel je vous remercie de m'avoir invité, qui est d'un ton complètement différent.
D'accord. Donc, les vampires, pourquoi avoir choisi justement d'écrire en premier sur les vampires? Parce que vous avez eu peur de rien, hein, parce que les plus grands écrivains ont écrit sur ce sujet. J'ai vu Tolstoï, Alexandre Dumas.
Oui, oui, et puis bien sûr, je veux dire, il y a le grand Dracula.
Oui.
De Bram Stoker.
Oui.
Et puis bon, il y en a d'autres. En fait, la mythologie du vampire, elle a été visitée, revisitée, revisitée. Elle a été mise en scène, mise en film, en série, autant qu'on veut. Seulement, ils n'ont jamais rencontré de vampire, tous ces gens-là. Moi, oui.
Oh, sérieux? Vous pouvez nous raconter cette rencontre?
Non.
Non? C'est le secret?
Si vous savez lire les livres de Christian Crossman, vous apercevrez vite qu'il y a une double lecture. Il y en a peut-être même des fois un troisième niveau de lecture. J'écris toujours pour venir sur votre sujet, pourquoi les vampires, pourquoi etc. C'est vraiment un livre à plusieurs niveaux de lecture pour satisfaire plusieurs publics. Vous avez donc le roman fantastique, que vous allez lire comme ça, de surface. Vous allez lire intrinsèquement les rapports humains. Et puis, vous allez dans une dernière lecture, si vous relisez encore le livre et que vous comprenez le double sens des mots, puisqu'en fait j'aime beaucoup jouer avec les mots, et les mots ont plusieurs sens. Vous savez que le français, oui, c'est un langage formidable, parce que si vous dites hôte, par exemple, on ne sait pas si c'est celui qui reçoit ou celui qui invite. Mmh. Et des mots comme ceci en français, il y en a foultitude. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut. Et là où ce qui est très intéressant, c'est que dans les endroits les plus droits de la société, le droit par exemple, eh bien vous remarquerez que les articles de loi sont remplis, cafés de mots à double sens, dont on ne sait s'ils veulent dire, donc ils sont sujets à interprétation. Donc mon livre permet plusieurs interprétations, comme on en a envie, et c'est ça qui est bien. Quelque part, ça permet à chacun de se projeter un petit peu comme il en a envie dans un livre superficiel ou dans quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et le troisième niveau de lecture, c'est quelque chose de plus profond.
Je tiens à signaler que Christian Crossman est le seul écrivain que j'ai rencontré qui parfois a son héroïne en chair et en os à côté de lui, habillée avec une robe absolument mais fabuleuse. Je suis sûre que plein de femmes lisent vos livres simplement à cause de la robe.
Alors, effectivement, la robe fait fureur. Ah, le personnage aussi, mais je vais vous décevoir. le second tome de ce livre devait paraître plus tôt. Mmh. Il devait paraître approximativement 6 mois avant, 6 mois après le premier tome, pour lequel vous m'aviez déjà reçu, voilà, avec Gérard Dumas Robin.
Tout à fait.
Et malheureusement, le personnage principal du livre nous a quittés. J'en dirai pas plus. Du coup, ça m'a imposé un retravail complet de l'ensemble de l'œuvre qui était déjà en grande partie écrite, mmh, et a repoussé sa sortie d'un an.
Ah oui,
et donc
carrément.
Le livre est sorti au mois d'octobre, fin novembre, début décembre 2019, au lieu de sortir fin novembre, début décembre 2018. Puisque le personnage numéro un du livre, Lilia Pexit Barayan, si vous surfez sur son propre Facebook, vous verrez ce qui lui est arrivé.
Ah bon ?
Oui, elle est disparue au cours d'une mission. En octobre, voilà. Alors, donc ça a imposé un total remodelage de l'histoire passée pour pouvoir continuer à écrire le livre. Et dans ce deuxième tome, Une vie intérieure, qui est beaucoup plus philosophique que le premier, c'est justement toute l'histoire de la passation de pouvoir entre Lilia, dont vous avez tant adoré la robe, et que je trouve toujours magnifique, formidable, et puis Xizia, qu'on voit ici, qui est un personnage tout aussi fantasque, mais dans un style totalement différent.
Mais du coup, la robe est passée où ? C'est quand même ça la question la plus importante.
La robe est passée où ? Oui. Alors la robe est toujours la propriété de Lilia Pexit Barayan, puisque ce sont ses vêtements. D'accord. Donc je ne vais pas la dénuder. Et donc en fait, elle possède toujours sa robe et puis tous ses accessoires. Et si vous allez sur son Facebook, Lilia Pexit Barayan, vous verrez ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut faire...
Je vous invite à y aller. Si vous voulez savoir où est la robe, vous aurez la réponse à cette question.
D'accord. Eh ben, j'irai voir après. Là, pour l'instant, si on peut récapituler, il y a 2 tomes. Alors, c'est Mémoire d'un chasseur et c'est Entre ténèbres et lumière, le parcours initiatique d'une vie hors du commun, celle d'un être émotionnel. Alors ça, c'est intéressant. Un être émotionnel, ça existe que dans les livres, non ?
Non, je ne crois pas.
Ah bon ?
Tout le monde est porteur d'émotions et certains sont capables de les canaliser, d'autres vont les laisser exploser.
Voilà.
Et ce qui est très intéressant, c'est justement l'histoire de ce personnage qui est un, sur le fil de la vie, comme un funambule, ou le fil de la mort, comme un funambule, et qui d'un côté essaie de contrôler ce flot d'émotions, et de l'autre côté, en fait, parfois il explose.
Oui.
Donc il est dans une sorte d'équilibre permanent.
Et ensuite, il y a le tome 2, Mémoire d'un chasseur. Alors, ça reprend toujours le personnage d'Amvrosi Livius Laromir.
Oui, parce qu'en fait, Amvrosi Livius Laromir, il a passé sa vie à écrire sur des carnets. Et chaque livre est un carnet. Et j'en ai des dizaines à la maison à transcrire.
D'accord. Ah oui.
Donc pour le tome 2 n'est que la... Le livre qui vient avant le tome 3, et il est évident qu'il y aura peut-être un tome 4, 5, 6, 7, à savoir qu'il a commencé à écrire en 1698, l'année de ses 17 ans, et il a arrêté d'écrire il y a même pas une dizaine d'années, il y a 5 ans.
Moi, je suis allée voir un petit peu l'histoire justement des vampires, comment ils sont apparus dans notre monde. Et en fait, il y a eu Marie-Thérèse d'Autriche qui avait envoyé ses médecins personnels pour enquêter sur un cas de vampirisme supposé. C'était en 1755. Et c'est seulement là qu'on a interdit l'ouverture des tombes pour chasser les vampires. Avant ça, c'était autorisé. On pouvait ouvrir une tombe et vérifier s'il y avait vraiment un vampire dedans.
Oui, tout à fait. Et en fait, il y a un certain nombre de tombes qui sont, quand elles sont à nouveau découvertes ou ouvertes, vous verrez que le cadavre a, le squelette qui reste, a une pierre dans la bouche.
Tout à fait, on verra ça. Et puis même dans les années 70, la presse locale anglaise a diffusé la rumeur selon laquelle il y aurait un vampire qui enterrait le cimetière d'Highgate, j'ai un accent pas terrible, à Londres. Et il y a eu des chasseurs de vampires amateurs qui ont envahi alors les lieux. Et il y a eu plein d'articles. Et...
Oui. Alors vous savez de quand date le premier vampire ?
Non.
Alors le premier vampire, c'est Lilith.
Mmh. Ah oui, d'accord, Lilith, c'est un vampire.
Lilith, c'est la première femme d'Adam. Mm. Voilà. Elle a été chassée du paradis par Dieu parce qu'en fait, elle était manipulatrice.
Ah. Elle aussi, hein, avec sa pomme, mais bon.
Mais elle avait un côté méchant. Et du coup, elle a été chassée. Et elle a rallié les forces du mal, entre parenthèses. Et donc, elle est la mère de toutes les succubes et de tous les incubes, dont les vampires. Voilà, ça, c'est le premier. On retrouve traces de Lilith à deux endroits dans la Bible.
Mmh.
C'est les premières références aux vampires qu'on peut trouver du côté de nos civilisations. Sinon, il existe des traces qui sont dans la tradition orale en Afrique, qui
oui, parce
remontent
que c'est...
très très loin.
Ouais, c'est dans le monde entier.
Oui,
hein.
Tout à fait. Et de la même manière, le vampire est un personnage féminin, exclusivement féminin, un peu fantasmagorique, féerique au Japon. Et on retrouve traces dans toutes les civilisations, y compris chez les Amérindiens, en fait, du phénomène vampire.
Et certains disent que ça serait la nostalgie de l'allaitement.
Peut-être, allez savoir.
Et par contre, alors là, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en 2006, il y a eu deux professeurs de physique de l'université de Floride qui ont écrit un article dans lequel ils montrent qu'il est mathématiquement impossible que les vampires existent parce qu'ils se basent sur un calcul, une progression géométrique. Selon eux, si le premier vampire était apparu en janvier 1600, et s'il devait se nourrir au moins une fois par mois, ce qui est moins que ce qui est évoqué en général, eh bien, chacune de ses victimes devenant à son tour un vampire, eh bien, ça voudrait dire qu'en l'espace de 2 ans et demi, la moitié de la population humaine serait transformée en vampire. Et donc,
mais
après, il manquerait plus qu'un jour.
Ils ont fait une erreur.
Ah bon ?
Oui.
Laquelle ?
Qu'est-ce qui vous dit qu'en fait, un vampire vous transforme en vampire quand, en fait, il vous mord ?
Ah, pas forcément.
Vous pouvez être... Ou un ghoul. Un ghoul.
Oui, c'est quoi?
En fait, c'est un incube, un succube, c'est un humain qui perd quelque part sa conscience et qui obéit au vampire. Allez savoir si dans notre monde, on n'a pas des gens qui obéissent au vampire.
Oui. Hein?
Bon, c'est une thèse complotiste. Hein? Allez savoir. Bon, donc voilà. Donc en fait, ils font une erreur. On ne devient pas forcément vampire parce qu'on est mordu par un vampire. On peut servir juste de repas aussi, éventuellement.
D'accord. Et d'autre part, en fait, le sang réjuvénateur,
oui.
Eh bien, c'est pas un mythe, ça. Ils ont fait des tests. Si on injecte du sang de souris jeunes dans des cerveaux de souris âgées, eh bien, le cerveau se régénère. Et inversement, si on prend du sang de souris, de vieilles souris qu'on injecte dans des souris jeunes, eh bien, ça dégénère. Alors c'est des tests scientifiques. Mais du coup, le vampire, il mord que des personnes jeunes et en bonne santé, ou tout le monde peut y avoir droit?
Joker.
D'accord. On va en profiter. Là, je lui ai coupé la parole. On va faire une petite pause musicale pour se tenir dans l'ambiance.
Sunday morning, her long hair falling in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her, give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Walk alone again and asked if she would stay.
misconception, but when you need me, be sure I won't be far away. Having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words, oh wise, take courage from her as your pride, and say hello for me.
On écoute maintenant Christian Crossman qui nous fait l'honneur de nous lire en personne un extrait de son livre, le dernier, Mémoire d'un chasseur, tome 2, Une vie intérieure. On vous écoute, Christian.
Alors, je vais vous lire un extrait du chapitre 8, Ultime offensive. Ce soir-là, le soleil rougeoyait les montagnes, illuminant de sa douce lumière le Yangtze. Alors, dans les derniers rayons d'un ciel orangé, j'ai couru et couru encore à en perdre le souffle, plus vite que je ne l'avais jamais fait. Dans mes bras, cette jeune femme qui ne pouvait plus que compter sur moi. J'ai bondi et filé rapidement, plus rapidement que le tigre ou le guépard à travers les sous-bois. Mais sachez, vous qui m'écoutez, que lorsque l'obscurité vient, on peut bien courir plus vite que le vent, ce n'est jamais suffisant. Le QI, c'est un fantôme. C'est rattraper n'importe quel vivant. Et c'est au milieu de la nuit, à mi-distance de notre destination, que le fantôme de Lilia m'est apparu, prenant possession une fois de plus du corps de Xizia.
Et on se replonge dans le monde imaginaire de Christian Crossman avec encore un extrait de son livre.
J'avais la rage contre ce Lincoln que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas. Qu'avait-il contre moi ? Je sentais en moi le Strigoï doté d'une force, d'une rare violence. J'avais du mal à le contenir. Je lui aurais arraché les canines pour en faire un pauvre édenté et l'obliger à se taire. Mais je me souvenais de ce reflet dans la glace, cette image de moi à Hunting Tower. Et je me rappelais aussi de cette promesse faite à moi-même de ne plus jamais laisser le Strigoi prendre possession de qui j'étais. Alors j'ai gardé mon calme et j'ai répondu le plus posément possible. « Sensei Pan, si j'ai bien écouté vos conversations, c'est bien contre mon gré, car étourdi que je suis, je n'ai pas fait attention à la façon dont nous sommes entrés ici, et j'ai été bien incapable de reproduire vos gestes. » Arrivé en haut de l'escalier, je me suis retrouvé bloqué devant la roue et je m'apprêtais à redescendre pour vous le dire quand fortuitement j'ai entendu votre âge et me voilà à glisser sur la dernière marche. Voudriez-vous donc m'accompagner vers la sortie ou m'indiquer comment procéder ? Quant à vous, monsieur John Lincoln, que je n'ai pas l'honneur de connaître, je vais me permettre un droit de réponse parce que vous ne m'intimidez pas. La première chose serait de tenir votre rang et de réviser vos jugements hâtifs. Et je ne ferai pas la joie de répliquer à vos provocations. Pourtant, je pourrais vous infliger une correction, car je perçois bien que vous êtes un faible, peu digne représentant de notre communauté. Non, je vous écoute.
Eh bien, en fait, c'est le moment de faire passer un message. Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer ?
Eh bien, je voudrais juste vous parler d'une petite ébauche qui a déjà une bonne centaine de pages et qui sera le prochain ouvrage. Puisqu'en fait, en parallèle avec ma main gauche, j'écris un livre sur un autre sujet. Je prends la main droite et j'écris le tome 3, qui est en cours d'avancement, mais qui ne paraîtra pas avant 2022, je pense. Parce qu'en fait, je vais laisser les lecteurs attendre.
Volontairement,
et j'ai un sujet plus brûlant. Oui, je fais partie de ces gens politiquement incorrects. Qui essaient de tenir leur langue autant qu'ils peuvent, et, mais dont l'obligation de dire les choses se fait naturellement. Alors j'essaie de le faire à la façon La Fontaine avec des pincettes.
D'accord, il vaut mieux de nos jours. Hein.
N'est-ce pas ?
En cette époque de politiquement correct.
Voilà, donc du coup, je suis un fervent adepte de Jean de La Fontaine, qui était un délicieux plagieur d'ailleurs, parce qu'en fait il avait plagié Ésope hein, pour ses fables.
D'accord,
c'est du Ésope tout craché. Enfin, à part une ou deux hein, qu'il a vraiment mis en scène lui-même. Mais à l'époque il n'y avait pas internet pour vérifier, donc on ne lui a pas dit « Cher monsieur La Fontaine, tu viens de faire comme Gad Elmaleh, tu as pioché un sketch d'un ami québécois. » Non, personne ne savait lire le grec. Donc du coup il a été tranquille. Donc je suis en train d'écrire un nouvel ouvrage qui est à la frontière de l'interdit et qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle, donc l'ouvrage s'appelle « Sapiens et Gourgandine ». Sapiens, évidemment, c'est moi.
Oui.
Voilà, et Gourgandine, c'est vous.
Ah bon ?
Donc le sapiens représentant l'homme avec un petit H, le masculin, puisqu'il a eu... la grande décence de s'appeler Sapiens Sapiens, ce qui veut dire en latin sage, sage. C'est vrai que l'homme est très très sage. Et il emporte dans sa folie Gourgandine. Gourgandine, donc c'est une façon édulcorée de dire femme de petite vertu,
oui.
Intéressée par l'argent.
Intéressée par l'argent, la Gourgandine ?
L'argent et le pouvoir.
Ah bon ? Je croyais qu'elle pensait qu'à s'amuser, non ? C'est sa cousine alors.
Oui, bah disons que voilà, il y a un certain nombre de synonymes, mais voilà. Et cet ouvrage que je suis en train d'écrire va être une satire de la société et des gourgandines. Il y en a plein. Il y a des sapiens, il y en a plein. Hein. Là, c'est facile à trouver. Je citerai pas de nom. et des gourgandines, elles s'appellent. Zaya, etc. Enfin, elles peuvent avoir n'importe quel nom. J'aime bien citer Zaya, parce que ça me fait rire. Et voilà. Donc, du coup, c'est l'histoire de deux personnages qui sont de deux milieux sociaux totalement différents. Sapiens, lui, né dans une petite cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, dans un milieu très argenté, où il prendra la suite de son papa, qui est dirigeant. Donc il a toutes les cartes en main. Donc évidemment, il est né un jour de plus grand soleil. Enfin, non, ce jour-là, il pleuvait à chier, mais ses parents vous ont expliqué qu'il faisait grand soleil. Et finalement, à force de vous avoir rabattu les oreilles, vous y avez cru. Voilà. Donc lui, il a tous les meilleurs atouts en main. Et Gourgandine, elle vient d'un milieu extrêmement pauvre et populaire. C'est pour ça que j'ai cité Zaya tout à l'heure. Et en fait, elle cherche au départ un prince charmant, parce qu'elle est, elle est naïve, puisqu'elle n'a pas les cartes en main. Ses parents lui ont dit « Travaille bien à l'école, t'auras un bon métier. » Alors que les parents de Sapiens, je lui avais déjà dit « Fais ce que je te dis de faire, et t'auras un bon métier. » Donc, les jeux, les cartes sont truquées au départ, puisque vous avez une partie de la population qui ne connaît pas les règles du jeu, et puis une autre qui les a. Et Sapiens, il écoute un peu son papa, mais vous savez, il a 20 ans, il est plein de fougue. Donc le premier chapitre, c'est la naissance de Sapiens jusqu'à sa vingtaine, quand il devient un adulte presque fini, on va dire. Et puis le deuxième chapitre, c'est Gourgandine avec la même chose, sa jeunesse. Elle part d'une famille basique, elle est d'une vie simple, elle n'a pas toutes les cartes en main, et puis elle va en fait s'apercevoir petit à petit des différents détails. Et en préambule à ces deux chapitres, il y a un avant-texte qui vous décrit une scène de crime.
Ah, mais c'est sanglant aussi.
Le début du livre est une scène de crime. D'accord. Où en fait je passe cet avant-texte qui est l'équivalent d'un chapitre, mais que je ne vais pas classer comme un chapitre.
Mais il n'y a pas de vampire.
Absolument pas.
D'accord.
À décrire une scène de crime. C'est un policier en fait.
Oui.
C'est donc la description totale d'un scène de crime. Mais on ne sait pas qui est mort. On ne sait pas si c'est un personnage féminin, un personnage masculin. Toute la scène est décrite sauf le mort. On ne sait pas qui c'est. Ensuite, donc, la description de la naissance et de la jeunesse de ces deux personnages. Et puis, tout le reste du livre, c'est l'évolution de la relation entre Sapiens et Gourgandine qui vont se rencontrer. Ça fait une étincelle, quelque part. Et cette scène de crime, c'est l'apogée de cette rencontre.
D'accord. Donc, toujours sur le thème du sang, en fait.
Oui, un peu.
Oui. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Christian Crossman, d'être venu et de nous avoir fait un petit peu voyager dans ces mondes complètement fantastiques.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation, Catherine. Avec grand plaisir.
Et on a hâte que le prochain livre sorte, du coup. Mais il va falloir attendre.
Ah, oui.
À bientôt.
Merci.
Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Prose et Livres. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures au pays du livre.